Nous allons donc ouvrir le Saint-Livre et partager cette sainte parole. Dans l'Épître aux Éphésiens, il nous est demandé de conserver l'unité par le lien de la paix. Éphésiens chapitre 4, les trois premiers chapitres parlent de doctrine, les trois derniers chapitres parlent de comportement. Et voilà donc comment Paul commence sur le comportement. Éphésiens chapitre 4, verset 1 au verset 6. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Le verset qui nous intéresse dans tout ce que nous allons voir est le verset 3. Nous faisons des efforts pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Nous allons aller dans le psaume 133 et nous allons le lire en entier. Psaume 133, psaume de David. Psaume 133. Lisons-le avec beaucoup, beaucoup de cœur, car vous allez voir la profondeur qui réside à l'intérieur. Psaume 133. Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. On peut tous dire amen. C'est là, il y a un endroit où Dieu envoie la bénédiction. L'apôtre Paul a dit, vous êtes le corps de Christ. Les chrétiens, quelle que soit la dénomination dans laquelle ils se trouvent, à condition que cette dénomination respecte la parole, font partie du corps de Christ. Un pécheur, nous étions des pécheurs, nous le sommes toujours, mais sauvés par grâce, lorsque nous étions dans le péché, car tous nous sommes des pécheurs, eh bien, nous avons été amenés au calvaire et à la croix, nous avons été amenés à être conduits dans l'Église. Quand je dis l'Église, ce n'est pas une dénomination, c'est dans le corps de Christ. Un véritable chrétien est quelqu'un qui sera toujours amené à la maison de Dieu. Je ne parle pas de régularité aux réunions de semaine, etc. C'est quelque chose de spirituel. De la même manière que dans l'Ancien Testament, par exemple dans le tabernacle, eh bien, l'autel conduisait au sanctuaire. Et le sanctuaire conduisait au lieu très saint. Dans le temple, c'est la même chose. L'autel conduisait à la maison. Et lorsqu'un pécheur, écoutez bien, parce que beaucoup de personnes qui ont accepté l'évangile ne sont pas rentrées dans le corps de Christ. Ça a énormément affligé l'ensemble. À quoi reconnaît-on quelqu'un qui est passé par une véritable conversion, repentance et nouvelle naissance? C'est que, instinctivement, il est entré dans le corps de Christ. Et il fait partie de la maison de Dieu. Si vous êtes engagé dans une dénomination, juste en prenant le baptême parce que vous aviez été touché par la grâce, ce qui est excellent, d'être touché par la grâce. Si vous avez pris le baptême, comme certains l'ont fait, comme, parce qu'on me l'a dit depuis 36 ans, je l'ai entendu je ne sais pas combien de fois, j'ai pris le baptême pour remercier Dieu. On ne prend pas le baptême pour remercier Dieu. Quand on veut remercier Dieu, eh bien on lui dit merci. Mais on ne prend pas le baptême pour remercier Dieu. On ne prend pas le baptême parce que les copains prennent le baptême. On prend le baptême parce qu'on veut faire partie du corps de Christ. Ça serait tout un enseignement. J'espère que j'en ai assez dit là-dessus. Donc, le but de l'Église, alors quand je dis Église, c'est avec un E majuscule, celle que Jésus-Christ doit bâtir. L'Église que Jésus-Christ bâtit est protégée. Nous l'avons chantée, toute arme ennemie sera brisée contre nous. Jésus a dit, je bâtirai mon Église, vous connaissez la suite, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Cela veut dire que lorsque nous faisons partie de la véritable Église, l'ennemi ne peut faire qu'une chose en vérité, c'est nous décourager. Ça s'arrête là. Lisez le livre d'Esdras. C'est très très intéressant. Vous voyez les 7 ou 8 ruses que l'ennemi utilise pour essayer d'empêcher la construction de sa maison. Ça, c'est sûr, on pourrait le résumer à un mot, le découragement. Pourquoi ? Parce que les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre l'Église, que le nom du Seigneur soit béni. C'est très important. Le but de l'Église que Jésus veut bâtir, et surtout maintenant que nous sommes arrivés à la fin des temps, c'est de la terminer. Le but de l'Église, c'est que Jésus-Christ soit glorifié, que Jésus-Christ soit le Seigneur. Vous êtes d'accord ? Est-ce que vous voulez que Jésus-Christ soit le Seigneur de l'Église ? Est-ce que nous voulons que le Seigneur Jésus-Christ soit le Seigneur de notre mouvement, dans lequel nous sommes encore ? Pour cela, il faut nous occuper du corps de Christ. Et de la tête, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Je lisais l'autre jour avec les responsables, regardez le psaume, mais dans le livre des chroniques, par exemple, lorsque David se préoccupe, on peut le lire, parce qu'il y a un verset qui est clé dedans, dans 1 Chronique 15. Oui, 1 Chronique 13, pardon. David, qui a le souci de ramener l'arche à Jérusalem, va faire une remarque qui nous intéresse à nous. Vous savez, j'aimerais vous expliquer la différence entre les prophètes. Par exemple, il y a une grande différence entre le prophète Élie et le prophète Ésaïe. Ésaïe a prophétisé sur les choses à venir. Élie a prophétisé sur les choses présentes. Et il faut que vous compreniez bien que des pasteurs peuvent avoir un ministère différent, même s'ils sont par exemple prophètes. Et il y a des choses que le Seigneur peut me montrer parce qu'elles sont liées au présent. Et là, dans 1 Chronique, chapitre 13, le verset 3, David, lui, est préoccupé, non pas par la religion, il est préoccupé par la présence de Dieu. 1 Chronique 13, voyez au verset 3, il dit « Ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. » Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'on peut conserver le culte, on peut s'occuper d'un mouvement, on peut s'occuper d'une assemblée, on peut s'occuper de projets, d'œuvres, etc., sans nous préoccuper vraiment de la présence de Dieu dans un local comme celui-ci, parce que le local, à partir du moment où il est rempli de croyants, il devient la maison de Dieu, mais individuellement, nous sommes également le temple du Saint-Esprit. Vous me suivez ? Donc, nous ne sommes pas là pour faire valoir une dénomination, pour défendre des hommes, nous sommes là pour glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut absolument que Jésus marche au milieu de nous et habite au milieu de nous. C'est la seule vocation de l'Église, que Jésus soit au milieu de nous. Et hier, quand je discutais donc avec un des responsables du mouvement, il a accepté l'idée que nous avions mis le Seigneur Jésus dehors. Comme dans l'Église de la Odyssée, où Jésus dit « Je me tiens » à la porte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une grande bénédiction déjà de reconnaître ce qui ne va pas. Pour moi, ça a été une grande bénédiction. Donc, ce psaume 133 nous parle d'onction. Mes frères et sœurs, l'onction, nous en avons tous besoin. Qui désire avoir l'onction du Seigneur Jésus-Christ ? Voilà, il y en a 8 qui ont levé la main. Est-ce que, vous me répondez surtout au Seigneur, est-ce que c'est important pour vous d'avoir l'onction du Saint-Esprit. Alors écoutez bien la suite. L'onction, dans la Bible, elle est réservée aux pentecôtistes. Non ? Bon. L'onction, elle est réservée à ceux qui obéissent. Ça va mieux ? Bon. à ceux qui répondent aux exigences du Seigneur. Recevez mes instructions et vous trouverez le repos, etc. Donc, le corps, si vous, où vous êtes, alors j'en parlerai peut-être à la fin, mais où vous êtes, écoutez bien parce que c'est archi sérieux, où vous êtes un électron libre, un chrétien qui fait votre propre volonté, où vous êtes un chrétien qui, à cause du calvaire, à cause de la croix, est rentré dans la maison de la même manière que quelqu'un qui se trouvait dans le tabernacle à l'autel se retrouvait dans le lieu saint. C'est pareil. Donc le corps de Christ doit s'appliquer à connaître le Seigneur. C'est pour ça que dans la Bible, il est dit « chercher l'Éternel », pas « chercher la bénédiction ». Avouez quand même que bien souvent, nos prières se résument à cette affaire « Seigneur béni, Seigneur béni ». Oui ou non ? Ce qui est bon aussi. Nous sommes ses enfants, nous avons droit à la bénédiction. Mais nous sommes ses enfants, nous avons droit aussi à chercher la volonté de Dieu. Donc, si vous aviez participé à la réunion des responsables sur la consécration, vous voyez dans le Lévitique au chapitre 8 qu'il y a plein d'étapes. Il y a plein d'étapes et peut-être on pourra en lire une. Parce que quand même, c'est très important parce qu'on ne peut pas parler d'onction sans parler de consécration. Et la consécration, le départ de la consécration commence dans le Lévitique, là au chapitre 8, au verset 22. Il y a 6 ou 7 étapes en vérité. Mais on va lire une étape qui permet de comprendre ce qu'est le corps. Lévitique, chapitre 8, il y avait 2 sacrifices. Un sacrifice qui indique qu'il faut être sauvé, c'est le fameux taureau expiatoire. Un deuxième sacrifice, le bélier de l'Holocauste qui nous montre qu'il faut être choisi. Vous savez, c'est une chose d'être sauvé, ça n'est une autre quand Dieu nous choisit. Normalement, nous sommes tous dans le Nouveau Testament des sacrificateurs. Est-ce que c'est clair ? C'est clair ? Bon. La troisième étape dans cette affaire, bien sûr, c'est le bélier de consécration, verset 22. Regardez bien, c'est important, mes frères et sœurs, parce que parler de l'onction comme ça, ça ne va pas. Il faut l'expliquer ce que c'est dans le corps. Il fit approcher l'autre bélier, le bélier de consécration, dans le troisième sacrifice. Et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse égorgea le bélier, prit de son sang et a mis sur le lobe de l'oreille droite. Là, ce n'est plus le sang qui est répandu pour le péché, c'est le sang qui est répandu sur le corps, ce qui nous parle de vie. Donc, le départ de la consécration commence avec Louis, qui est purifié. C'est très important, mes frères et sœurs, parce qu'une étude sur le corps de Christ, ça peut être très théologique, ça peut être très doctrinal, ça peut être très intéressant, mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout, ça. Ce qui m'intéresse, c'est la vie de Jésus-Christ dans l'Église. Donc, la consécration, après ces 3 sacrifices, commence, elle n'a pas lieu, elle commence par la sainteté de Louis. C'est pour cela, mes frères et sœurs, que nous devons absolument veiller à tout ce que nous regardons et tout ce que nous entendons. Je vous assure, ça passe par là. Que nous enseigne le psaume 133 ? Vous l'avez lu ? L'huile fut répandue sur la tête d'Aaron et après, elle coule sur sa barbe et sur le bord de ses vêtements. Vous êtes d'accord avec moi ? Ce texte nous prouve que l'huile, elle est d'abord sur la tête d'Aaron, qui est lui, bien sûr, c'est Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur aujourd'hui. Et que l'huile, une fois qu'elle est sur la tête, elle y est sur la tête. Mais à savoir, est-ce que Jésus est la tête de l'Église ? C'est pour cela, tout ce qui se passe là, tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de nous occuper de la présence de Dieu dans l'Église. C'est exactement ce qui va plaire à Dieu, ce qui plaît à Dieu. Mais pour cela, il faut être un véritable chrétien qui, par la mort à soi-même, comme un don l'a rappelé tout à l'heure, nous amène vraiment à la croix, et la croix à la maison de Dieu. Si nous sommes sous la tête, incontournablement, l'huile va descendre. C'est comme ça que ça se passe. Il faut bien sûr que la tête soit le Seigneur Jésus. J'espère que vous comprenez bien, mes frères et sœurs, que c'est quelque chose de simple, c'est quelque chose de solennel, c'est quelque chose de sérieux. Tous les chrétiens de France devraient se poser la question, est-ce que je suis un électron libre, un chrétien détaché du corps, ce qui fait que, c'est pour ça qu'on a entendu, c'est un peu le pavé dans la mare, mais combien de fois on a entendu des chrétiens, moi j'ai pas besoin de vie d'église, moi je peux vivre ma vie sans avoir une vie d'église, c'est exactement comme si vous coupiez un doigt à quelqu'un et que vous le laissiez un mois sur la table, vous allez revenez voir dans un mois l'état du doigt. On pourrait d'ailleurs essayer avec quelqu'un, si quelqu'un veut se proposer, on va laisser le doigt sur... Mais c'est exactement la même chose. C'est la mort assurée pour quelqu'un qui ne veut pas faire partie du corps de Christ. Mais nous devons être véritablement le corps, ça c'est une chose qui devrait être acquise, et nous devons absolument, dans chaque église et dans un mouvement, nous devons veiller à ce que Jésus-Christ, seulement Jésus-Christ, soit la tête du corps de Christ. Et pour que Jésus-Christ soit la tête de l'église, il faut respecter que sa parole. Vous entendez ? Que sa parole. Si on ajoute quelque chose, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Et mardi, jeudi, je partageais avec les responsables que lorsque David, pourtant c'est... Franchement, c'est une pointure, David, dans l'histoire. Et pourtant, il n'avait pas suffisamment consulté les Écritures, et il a ramené l'arche d'une mauvaise façon, quoique c'était la volonté de Dieu. Et vous savez qu'un jeune qui a voulu soutenir l'arche est mort parce qu'il n'avait pas d'excuses. Et nous n'avons pas d'excuses. En tous les cas, nous les pasteurs. Les chrétiens, ce n'est pas la même chose. Mais il faut que vous compreniez mon ministère. Moi, je n'ai aucune excuse devant Dieu. Aucune. Quand je comparaîtrai devant Dieu, je serai jugé sévèrement. C'est écrit ça ou c'est pas écrit ? Je serai jugé sévèrement. Vous comprenez bien ? Moi, j'ai envie que ça se passe bien. En tant que pasteur, en tant que chrétien, c'est une chose, mais en tant que pasteur. Donc, l'Église doit avoir pour seul chef Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Si Jésus-Christ est le chef de l'Église, les portes du séjour des morts n'auront aucun pouvoir sur l'Église. Que son nom soit béni. C'est important que nous le comprenions. On en a besoin. Si Jésus-Christ est la tête, et si nous sommes le corps, c'est pour ça que nous devons, chacun, si vous avez pris le baptême par immersion, si vous avez compris, alors je sais que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris, mais ce n'est pas votre faute, c'est la nôtre, encore une fois. Et quand vous regardez dans la parole de Dieu les reproches, Jésus n'arrête pas, c'est triste, mais c'est comme ça, ou Dieu dans l'Ancien Testament n'arrête pas de faire des reproches aux pasteurs, aux bergers, aux faux prophètes, etc. Parce que nous avons égaré les troupeaux. C'est ce qui s'est passé. Donc, Jésus-Christ doit absolument être la tête de l'Église, l'Église doit absolument être le corps de Christ, et si il en est ainsi, le corps sera automatiquement, sous la tête. Dernièrement, nous dormions avec mon épouse, et tout d'un coup, elle me dit, où c'est que tu as les jambes ? J'ai dit, en bas du corps. Je dis, en principe, elles sont en bas. Donc, je ne sais pas pourquoi elle me dit ça, je pense qu'il y avait une jambe qui devait traîner par là, mais normalement, le corps, il est sous la tête. Dans le monde physique, dans le monde spirituel, c'est pas automatique. L'Église doit être le corps de Christ. Est-ce que vous voulez l'onction ? L'onction. L'onction ne vient pas sur nous. L'onction vient sur les vêtements, donc c'est-à-dire sur les dons que Dieu nous a donnés, sur le ministère que Dieu nous a donné à chacun. Car le mot ministère signifie service. Beaucoup cherchent un ministère parce que ça fait un peu chouette d'avoir un ministère, d'avoir un titre. Le Seigneur ne nous demande pas de nous préoccuper tellement des titres, du service. quand on met, à la place de maître ministère, on met serviteur. Oui, c'est bien comme ça, ça calme un peu les gens. Que s'est-il passé? Parce que c'est bien de faire le rapprochement. Que s'est-il passé lors du baptême de Jésus-Christ? Alors on le lit. Dans Luc au chapitre 3, Jésus-Christ a 30 ans et il a attendu. Il a attendu depuis longtemps, depuis très longtemps, depuis l'âge de 12 ans. Il sait qu'il est le Fils de Dieu. Il le sait. Oui ou non? C'est écrit? Bon, c'est bien. Il sait qu'il est le Fils de Dieu. Il a attendu 18 ans. Il a attendu, il n'a pas pris les choses en main de lui-même. Il a fait les choses au temps de Dieu. C'est très, très important dans ce qui nous préoccupe en ce moment que nous fassions les choses dans le temps de Dieu. Donc, dans l'évangile de Luc, au chapitre 3, au verset 21, nous voyons Jésus-Christ qui donne l'exemple. Est-ce que Jésus avait besoin de se faire baptiser, au fait? Ben non. Mais il s'est identifié. Rappelez-vous qu'il ne se présentait pas comme « Je suis le Tout-Puissant, je suis le Fils de Dieu ». Il disait « Le Fils de l'homme ». Ouais. Luc chapitre 3, 21. « Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. » Alléluia. C'est ce que nous voulons? Que quand on prie, le ciel s'ouvre. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection, gloire à Dieu. » L'approbation divine sur le baptême de Jésus-Christ, on pourrait dire « Mais il n'a rien fait, il prend le baptême et il y a cette approbation divine. » Oui, Jésus-Christ est en train d'obéir. Vous entendez? Parce qu'on pourrait, se dire, mais quand même, ça, franchement, il n'a rien fait, le ciel s'ouvre, il prie, l'Esprit de Dieu descend sur lui. Oui, mes frères et sœurs, Jésus-Christ est en train d'obéir. Alléluia. Et regardez le résultat, après le désert qu'il va traverser, on va lire le verset 18 du chapitre 4. Il se retrouve dans la synagogue de Nazareth, et voilà, on lui demande de lire un texte, et au verset 18, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Donc, le Saint-Esprit est descendu sur lui, sur la forme d'une colombe, pourquoi? Parce que Jésus était saint. Quand, à la Pentecôte, est-ce que le Saint-Esprit est descendu sur les 120 sous la forme d'une colombe? Non, sous la forme de flammes. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'avait pas besoin d'être purifié. Il était pur, c'est évident. Tandis que nous, même si nous avons besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin de ce feu qui purifie nos âmes. Voilà la différence. Donc, le Saint-Esprit est venu sur Jésus lors de son baptême. Parce que le baptême, c'est très important que nous revenions sur la notion du baptême. Le baptême, qu'est-ce que c'est le baptême? Qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, oui, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Oui, mais le baptême, si nous devions le résumer en une phrase, ça signifie que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Que nous sommes morts à nous-mêmes, que ce qui est charnel est enseveli et que ce qui est spirituel ressuscite. Donc nous devons absolument nous appliquer à mourir à nous-mêmes, non pas ma volonté Seigneur, mais la tienne. Est-ce que vraiment quand nous avons pris le baptême, nous avons compris que tout ce qui était charnel devait mourir et que tout ce qui était spirituel devait ressusciter? C'est ça le baptême, c'est notre vie. Quand on prend le baptême, on dit des fois aux gens, mais il faudrait prendre le baptême. Vous aimez Jésus? Oui. Vous croyez en lui? Oui, mais prenez le baptême. On a égaré des gens. Le baptême, Seigneur, ma vie, elle t'appartient. Je te la donne. C'est un honneur. Si vous pensez faire un cadeau à Dieu en offrant votre vie, ce n'est pas ça du tout. Même une reine qui offre sa vie à Dieu, c'est elle qui a une grâce. Ce n'est pas elle qui fait un cadeau au Seigneur. Dans le psaume 132, il est dit quoi? Alors vous avez vu que même Jésus qui était saint, qui était parfait, qui était pur, a eu besoin du baptême du Saint-Esprit. Je ne sais pas si ça vous en dit un peu. Ça veut dire que nous aussi, nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, dans la cohésion de ce que nous venons de partager, est simple. Je fais partie du corps, je suis mort à moi-même, et en faisant partie du corps, je suis imparablement sous la tête. Donc le psaume 133 nous dit que l'huile, elle est comment? Verset 2, c'est comme l'huile précieuse. Alléluia. Mes frères et sœurs, la grâce de Dieu qui coule de sa tête, c'est imparable, sur le corps, elle est précieuse. C'est pour ça que nous devons nous attacher, comme le don spirituel le rappelait ce matin, le vase, il doit rester sur le tour pour que les mains du potier puissent faire le vase à sa convenance. Un corps spirituel qui n'est pas sous la tête, vous pouvez demander l'onction tant que vous voudrez, ça ne marchera pas. Un vase, s'il n'est pas sur le tour de la parole, ne pourra jamais être façonné par les mains du Seigneur. Ça engage chacun notre responsabilité. C'est vrai que les pasteurs ont une grosse part de responsabilité dans cette affaire, mais c'est l'affaire de tous les chrétiens, le réveil. La bénédiction de Dieu qui descend de la tête sur la barbe et de la barbe sur les épaules et sur les vêtements, c'est vraiment l'affaire de tous les chrétiens. C'est pour ça que je me permets de temps en temps de vous dire, éteignez vos portables. L'autre fois, moi j'avais vu ici un gars, tout le culte, il est resté avec son portable. Il y a des gens qui n'ont aucunement conscience de la présence de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que si tous les chrétiens, nous nous appliquions à vivre ce que nous sommes en train de partager, ça m'étonnerait qu'un pécheur résiste longtemps dans la maison du Seigneur. Ou il se convertit, ou il s'en va. Mais nous avons bien sûr envie que les pécheurs se repentent. Tout cela est lié. Donc, nous nous appliquons à rester à la tête. Le Saint-Esprit unique agit comme ça. Des fois, on dit, mais le Saint-Esprit, vous savez, moi j'ai entendu, si vous savez tout ce que j'ai entendu sur le Saint-Esprit, c'est grave. Le Saint-Esprit agit de cette façon. Dans le corps spirituel, le Saint-Esprit descend de la tête des pensées, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui doit nous la communiquer, et de la tête dans les membres. Et lorsque nous attristons le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, lorsque nous éteignons le Saint-Esprit, nous obstruons cette relation avec la tête. C'est pour ça que nous devrions être sensibles et dire, tiens, j'ai peut-être attristé le Saint-Esprit, j'ai un peu d'amertume contre ma femme. Oh, c'est pas grave, ça arrive souvent. C'est toujours comme ça. Si vous en êtes là, moi je vous conseille de réviser la copie. Parce que si vous avez toujours un petit peu d'amertume contre votre épouse, parce que c'est normal, laissez-moi vous dire que nous allons avoir du mal à recevoir la pensée de la tête. C'est important que nous travaillions à notre salut avec crainte et tremblement. Travailler à son salut, c'est sérieux, il faut que ça soit bien. Il faut que quand vous passerez devant Dieu, quand nous passerons devant Dieu, il faut que dans la salle d'attente, je ne sais pas comment ça va se passer, mais enfin, quand même il y a des trucs qui nous font réfléchir. Il faut que ça soit bien. Vous avez envie que ça soit bien? Voilà, eh bien on travaille à cela. Mais mes frères et sœurs, n'attristons pas le Saint-Esprit, un corps il doit être en bonne santé. Moi j'ai été paralysé pendant quelque temps, tout un côté, et je sais combien c'est difficile quand la moitié du corps est paralysée. C'est ce qui peut arriver dans l'Église. Il ne faut pas que la moitié du corps soit paralysée. Il faut que tous les membres fonctionnent bien et que chacun cherche quelle est la pensée de Dieu d'une façon individuelle. Le Saint-Esprit, vous pouvez le lire dans 1 Jean, on ne va pas le chercher, mais dans 1 Jean 2, 27, il nous est dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Alléluia. Le Saint-Esprit a le pouvoir de nous enseigner. Le Saint-Esprit, il est donné à ceux qui ont beaucoup, beaucoup de connaissances, aux théologiens, experts dans toute la théologie biblique. Non, le Saint-Esprit, il est donné, même aux tout nouveaux chrétiens, le Saint-Esprit, il est donné à ceux qui obéissent. Donc ne vous méprenez pas en disant, il faut que j'ai le maximum de connaissances, de théologie, de doctrine, pour être rempli du Saint-Esprit. Non, bien sûr qu'il faut y aspirer, mais le Saint-Esprit, il est donné à ceux qui obéissent. Et c'est ce que nous devons faire, pas obéir à l'Église, obéir tout le temps mes frères. C'est une grâce d'obéir. Si c'est une corvée, demandez au Seigneur qui vous en libère et que l'obéissance soit quelque chose de joyeux. C'est une grâce d'obéir à notre Seigneur Jésus-Christ, etc. Cette onction, elle est précieuse, on vient de le lire, elle est délicate, elle est comme une colombe s'est vite effarouchée, juste un bruit et paf, l'oiseau il s'en va. Vous avez vu comment ça s'est passé pour la colombe lorsque Noé l'a lâchée, elle n'a pas trouvé de place pour revenir parce que la colombe, elle ne se pose pas sur la pourriture, excusez-moi l'expression. La colombe, elle se pose là où on sanctifie le nom du Seigneur Jésus-Christ. Là où on obéit. Nous avons besoin de cette huile précieuse. Nous avons besoin. Pourquoi Jésus a-t-il appelé le Saint-Esprit le Consolateur? Après tout, Jésus aurait pu dire, je vous enverrai le conseiller, un autre conseiller. Oui ou non? Est-ce que le Saint-Esprit nous conseille? Oui. Vous voyez, je ne vais pas prendre le temps pour expliquer tout ça. Mais Jésus aurait pu donner un autre nom au Saint-Esprit. Ça aurait été mais vraiment, vraiment de quoi? Ça aurait été très bien. Mais Jésus, le Dieu du ciel et de la terre, a dit qu'il nous enverrait le Consolateur. Pourquoi? Mais parce qu'on a besoin d'être consolé. Moi, ce que je suis en train de faire, je ne pense pas que j'aurais pu le faire si je n'avais pas votre affection. On a besoin d'affection, oui ou non? Il y a quelqu'un qui peut se dire, mais non, moi je suis un homme. Moi, on m'a appris qu'il fallait être un homme. Un homme ne pleure jamais. Moi, je suis un dur. Eh bien, levez-vous, expliquez-nous. Je vous plains. Parce que qui que nous soyons, nous avons besoin d'affection. Et nous devons nous appliquer à être pleins d'affection. Et moi, je vous remercie, les frères. Mais vraiment, je vous remercie. Et les sœurs aussi. Oui, je m'en doutais. Et les sœurs. Mais je vous remercie pour votre affection, surtout les frères. Merci. Non, mais c'est important. Est-ce qu'il faut le dire? Est-ce qu'il faut... Moi, je vous le dis. Merci. J'en ai besoin. Vous savez, je ne suis pas un Rambo, ni un Schwarzenegger. Dieu n'a pas besoin de Rambo dans le royaume de Dieu. Dieu a besoin d'enfants qui obéissent. C'est tout. Donc, ce psaume nous enseigne comment avoir l'onction. Je fais partie du corps. Vraiment, je fais partie du corps de Christ. Vraiment, je suis automatiquement placé sous la tête. Il faut bien. Alors là, je m'adresse aux églises qui sont en très grande difficulté. Je sais que parmi les milliers de gens qui m'écoutent, beaucoup de frères et de sœurs souffrent parce qu'en vérité, ils n'ont pas d'église. Alors, demandez la sagesse au Seigneur, il va vous conduire. Demandez-lui. C'est trop sérieux, ça serait l'objet d'une autre prédication. Mais je m'adresse surtout à vous, mes frères et sœurs qui m'écoutez sur Internet. S'il y a l'onction, il y a la vie. S'il y a l'onction, il y a la connaissance de la volonté de Dieu, la connaissance de la pensée de Dieu. S'il y a l'onction, on entre automatiquement dans les œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le bénéfice de l'onction, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, mon frère, ma sœur, pour terminer, je nous pose la question, soyez sérieux, vraiment sérieux. Est-ce que vous êtes un chrétien de nom, indépendant, ou est-ce que vous êtes membre du corps de Christ? C'est à vous de choisir, moi je n'ai pas à vous obliger, Jésus n'a jamais forcé quelqu'un, mais vous devez quand même répondre à cette question parce qu'elle est sérieuse, elle est spirituelle. Êtes-vous un chrétien qui fait ce que vous voulez parce que vous n'acceptez pas que quelqu'un vous commande? Écoutez-moi, nous avons un chef, notre chef c'est Jésus-Christ, tous ses ordres sont intelligents, tous ses commandements sont intelligents, vous le croyez? Alors si vous n'obéissez pas à Jésus-Christ, c'est que vous ne le connaissez pas. Je vous le dis, ce n'est pas pour vous embarrasser. Moi, je sais que des fois, je ne suis pas très adroit dans ma façon de parler. Mais si vous n'obéissez pas à Jésus, c'est sûr, vous ne le connaissez pas. Alors, je suis membre du corps de Christ. Je suis aussi conscient, ça c'est ma part à moi de pasteur, de vous expliquer dans quel contexte ce psaume a été écrit. Vous savez que du psaume 120 au psaume 134, ces psaumes sont appelés les psaumes des degrés, des montées, que les Juifs, trois fois par an, chantaient lors des fêtes religieuses. Écoutez, c'est important ce que je vais vous dire, par rapport à l'unité. Les Israélites, pendant ces fêtes, ne pensaient qu'à Dieu. Ils oubliaient la politique, l'économie, l'éducation, la guerre, les gilets jaunes, etc. Les Juifs ne pensaient qu'au Seigneur. L'unité, elle est là. Nous avons nos idées différentes. Il peut y avoir des pauvres, des riches, des analphabètes ou des gens très instruits. Il peut y avoir des gens avec telle ou telle conviction, etc. Ce n'est pas grave. Ce qui est important, nous sommes membres du corps de Christ, avec nos différences, et nous devons nous appliquer à conserver l'unité. Pas la chercher, elle existe. Jésus-Christ a donné sa vie, l'unité, elle existe. Si vous n'y êtes pas, c'est tout simplement, écoutez-moi bien mes frères et sœurs, c'est archi sérieux, en plus je n'ai pas envie de perdre du temps, Et il faut que vous compreniez où vous sortez du corps, parce que vous n'y êtes pas en vérité, ou vous vous appliquez à dire « je suis membre du corps ». Mais non, au contraire, moi que Dieu m'éclaire et que je fasse partie de ce corps de Christ qui va bientôt rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a une unité qui est conservée, parce que nous faisons abstraction de nos différences, de nos divergences, comme dit Paul, si nous sommes d'un avis différent, ben Dieu nous éclairera. Qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Vous êtes bien avec vos frères et avec vos sœurs? Moi, je suis bien avec vous, franchement. C'est pour ça que j'ai lu ce texte dans les Éphésiens, où nous conservons l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est la même raison. Nous avons besoin de directives. Si nous ne sommes pas dans le corps de Christ, vous allez vous fatiguer à dire « Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi ». Dieu ne vous parlera pas. Le Seigneur nous parlera quand nous serons connectés à la tête. Et nous aurons des convictions profondes qui feront que l'approbation de Dieu sera notre partage. Vous voulez être au bénéfice de la présence de Dieu dans l'Église? Alors mes frères et sœurs, appliquons-nous à cela. Expérimentons la communion les uns avec les autres. Rendons-nous participants de la nature divine de cette façon. Qu'est-ce que je peux faire pour être le membre de l'Église que Dieu veut que je sois? Je le répète, si nous en sommes arrivés à Sainte-Agne, à tout ce que nous avons partagé pendant les annonces, c'est grâce à cette affaire d'unité. L'unité qui existe dans l'Église a permis cela. Ne vous imaginez pas que je suis au-dessus du lot et que par hasard, paf, c'est tombé sur nous. Non, Dieu a vu la prière il y a 20 ans ou 25 ans en arrière, lorsqu'ici, dans cette Église, les anciens ont protégé l'Église. Et bien, le résultat, vous l'avez en partie. Mais ce n'est pas fini. Et nous voulons connaître la grâce de Dieu. C'est pour cela qu'il faut absolument, mes frères et sœurs, que nous retenions une chose. C'est que dans le royaume de Dieu, dans l'Église de Jésus-Christ, je ne parle pas dans une dénomination quelconque qui pourrait se comparer à d'autres. Dans l'Église de Jésus-Christ, la chair ne sert à rien. Il faut que la puissance de la prédication de la croix fasse son œuvre. Pas parmi les pécheurs, parmi les pécheurs. Et parmi les chrétiens, la croix, c'est une puissance pour qui? Pour les pécheurs ou pour le salut pour ceux qui croient? Pour ceux qui croient. Donc la croix, c'est pas pour les pécheurs, c'est pour les pécheurs, bien entendu. Mais c'est surtout aussi pour les chrétiens qui sont morts à eux-mêmes et qui disent « Seigneur, que la croix fasse son œuvre en moi ». Est-ce que vous avez demandé ça au Seigneur ces jours-ci? « Seigneur, que ta croix fasse son œuvre en moi ». Alors je termine parce que c'est vraiment le verset qui nous intéresse, le verset 3, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut le relire pour terminer ce culte? Et on va chanter ce cœur, c'est ta présence, Seigneur, que je veux. Si les musiciens veulent bien s'approcher, s'il vous plaît. Lisons le verset 3, relisons-le. Il est dans le canon des Écritures. C'est une clé qui nous prouve comment le Saint-Esprit, comment le Seigneur Jésus envoie la bénédiction. Et là, avec un accent. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Alors si vous regardez une carte d'Israël, vous allez voir que ça traverse tout le pays. Voilà, c'est super chouette. Ce n'est pas une montagne qui est bénie, c'est tout le pays qui est béni. Vous avez envie que tout le pays soit béni? Eh bien, voyez ça, on lit ça quand on ne connaît pas la géographie, mais si ça, quand vous lisez la Bible, regardez bien, et vous allez voir, mais qu'est-ce que c'est ça? Ça traverse tout le pays. Alléluia. Car, frères et sœurs, sérieusement, vous qui voulez la bénédiction, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour 3 ou 4 semaines. Ah non, pardon. Qui veut la bénédiction de l'Éternel pour, pardon, l'éternité? Ça vaut la peine? C'est là, il y a un endroit où Dieu envoie la bénédiction. Lorsque les hommes font partie du corps, et lorsque le corps dans l'unité est sous la tête, nous n'allons pas attendre très longtemps pour que l'huile commence à toucher les vêtements. Que son nom soit béni.